toujours l'arrivée des invités à la radio.
Comme ça, si quelqu'un vous agresse, vous injurie, il est dénoncé.
Je vous prends un petit café ou autre chose.
Une petite ovo maltine, si ça existe. Ça existe encore.
Bien sûr. Bon,
allons-y pour une ovo maltine.
Est-ce que vous êtes prêts? On a nos verres d'eau. On y va?
Vous voulez un test de voix? Non.
Non, c'est bon. Vous auriez voulu en faire un?
Parce que chanter une vieille chanson du répertoire Berrichon.
Si vous rêvez de faire un test de voix ou faire une chanson, on peut y aller, on peut la faire.
Non, j'ai une très mauvaise voix d'ailleurs en son. J'ai une voix grasseyante. Heureusement, enfin,
Non.
J'ai renoncé à l'opéra depuis longtemps.
On y va? Générique.
Monumental. Monumental. Joanne Ducey.
En nouvelle diffusion.
Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Adam, j'ai fait toute ma carrière au CNRS en France. J'ai une double formation d'architecte, j'ai exercé le métier d'architecte, j'y tenais beaucoup, et une formation en archéologie, je dirais traditionnelle ou classique. J'ai une thèse en archéologie monumentale sur l'architecture militaire grecque. Et puis j'ai complété cette formation par une formation en topographie, de façon à maîtriser l'essentiel des problèmes qui se posent sur un grand chantier d'archéologie monumentale.
Le phare d'Alexandrie, le plus grand phare du monde. Le colosse de Rhodes, une statue de bronze gigantesque. Le temple d'Artémis, le temple de marbre le plus vaste. Le mausolée d'Halicarnasse, le tombeau le plus fastueux. La statue de Zeus, plus vivante que nature. Les jardins suspendus de Babylone, de la verdure en plein désert. Et la plus ancienne, la Grande Pyramide.
Jean-Pierre Adam, dans votre livre « Les sept merveilles du monde », vous écrivez « Parmi les plus banales des questions posées fréquemment dans les jeux de société figure la liste des sept merveilles du monde. Et il est bien rare que chacun parvienne sans omission ou erreur jusqu'au numéro 7. » Alors c'est vrai que c'est un constat assez juste, hein, on peut le tester sur son entourage. Les pyramides reviennent, mais c'est vrai que c'est très difficile d'aligner la liste des sept merveilles du monde.
Oui, on en dit deux ou trois. C'est d'autant plus justifié qu'en réalité, il n'y a pas une seule liste. Il y en a une dite canonique, qui est en réalité une espèce de compilation des différentes listes données par des auteurs antiques. Et puis, il y a une liste donnée par un auteur, le seul qui nous ait laissé un ouvrage complet, qui s'appelait Periton Heptathéamaton, à propos des sept merveilles. Pour peu qu'on ait un peu de culture, d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a des listes qui diffèrent d'un auteur à l'autre. Mais enfin, grosso modo, on s'en tient au nombre 7, qui a une valeur prophylactique bien connue, et qui va de la pyramide et qui se termine par le phare d'Alexandrie.
Elles sont classées par numéro. Justement, la pyramide de Khéops, c'est la numéro 1.
C'est tout simplement parce qu'on donne un classement d'ordre chronologique. Mais Philon de Byzance, lui, commence par les jardins suspendus. C'est pas grave, il met la pyramide en numéro 2. En réalité, il n'y a pas de chronologie très précise. C'est selon l'admiration de l'auteur, selon le sentiment que l'on ressent en face d'un édifice. C'est nous qui donnons ce classement chronologique que l'on veut rigoureux.
Vous dites qu'il y a plusieurs listes, mais laquelle on retient?
Alors, cette liste canonique, c'est un mélange. Elle se détermine à la fin de l'époque romaine. Et elle comprend effectivement cette merveille, commençant par la Grande Pyramide et se terminant par le phare d'Alexandrie. Lequel phare d'Alexandrie, qui est cité par de très nombreux auteurs, n'est pas dans les listes les plus anciennes. Il intervient assez tardivement, au début du Moyen-Âge, d'ailleurs curieusement, alors que c'est probablement l'une des merveilles les plus stupéfiantes, les plus étonnantes.
Donc on garde quelle liste? La liste de...
Alors, gardons la liste canonique qui est la liste chronologique. Mais nous allons quand même évoquer la liste de cet auteur exceptionnel qui est Philon de Byzance, puisque c'est grâce à lui qu'on connaît la formule « Les sept merveilles du monde ».
Depuis quand finalement dresse-t-on cette espèce de hit-parade des monuments ?
la Genèse, c'est la bonne question, parce que tout le monde se demande, mais qui a inventé les sept merveilles du monde? Est-ce qu'au fur et à mesure, on a établi une liste que l'on enrichissait? C'est manifestement un concept grec. On doit beaucoup de choses aux Grecs, hein, le concept de l'art pour l'art, le théâtre. Et entre autres choses, ils ont imaginé, manifestement, au IIIe siècle avant notre ère, probablement à Alexandrie, on prête beaucoup aux riches, mais c'est vrai qu'il y avait à Alexandrie un bouillonnement extraordinaire, intellectuel et scientifique. Et c'est peut-être aussi l'un des grands conservateurs de la bibliothèque qui s'appelait Callimaque, qui est cité comme ayant évoqué, lui, les merveilles du monde. Donc c'est peut-être lui qui a inventé ce concept, qui a un poids extraordinaire parce que dans son esprit ou dans l'esprit des Grecs qui l'ont conçu, il s'agissait à la fois de rendre hommage à l'esprit humain, d'une manière universelle, sans choisir obstinément uniquement des réalisations grecques. Les remparts de Babylone, les jardins suspendus ne sont pas grecs, même si la statue de Zeus Olympie est grecque, si le temple de Diane est grec, les pyramides ne sont pas grecques non plus. Et en même temps, pour donner un stimulant aux bâtisseurs du futur, enfin des bâtisseurs à venir de toutes les époques. Et c'est bien la fonction qui a été accordée aux merveilles du monde. On n'a jamais oublié la liste des merveilles du monde et on les a toujours utilisées, ces édifices, comme des modèles quasi insurpassables, mais qui donnaient envie de bâtir quelque chose qui permettrait de rallonger cette liste. Et c'est vrai de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. Donc ça a un poids extrêmement fort sur le plan intellectuel, artistique et architectural.
Mais pourquoi y avait-il sept merveilles ?
On ne sait pas qui a décidé que le chiffre 7 avait une vertu prophylactique particulière. On le trouve dans toutes les cultures méditerranéennes. Les sept jours de la semaine, Newton va décomposer la lumière en sept couleurs. Il y a la Bible des Septante, il y a les sept péchés capitaux. On n'en finirait pas de faire la liste des sept jours de la semaine. Et ça apparaît dans le monde grec, dans le monde mésopotamien, dans le monde romain. Il n'y a pas d'explication. C'est une valeur qui est comme 2, 3, 5, 7. Évidemment, on ne peut pas les diviser et trouver, si on prend un tas de 5 pommes et qu'on cherche à diviser ce tas de 5 pommes, on ne trouvera jamais un nombre complet de pommes. Il va falloir les couper en petits morceaux. Alors ça a fasciné très vite. Cette idée qu'il y a quelque chose d'indivisible, ou en tout cas, il faut le fractionner pour avoir une valeur. Et une valeur qui ne finit pas. Il faut mettre, pour nous, évidemment, un certain nombre de chiffres après la virgule. Donc il est certain que ces chiffres sont très fascinants depuis toujours et ce chiffre 7 s'est imposé, mais vraiment, on n'a pas d'explication. D'abord, c'est pas rationnel, donc de toute façon, il n'y a pas la peine de chercher une explication. Pourquoi on a déterminé que 7 était plus intéressant que 5, on n'en sait strictement rien.
Ce sont ces 7 merveilles qui nous ont enseigné les techniques de construction modernes.
C'est grâce à l'invention de la grue dans l'Antiquité qu'on a pu et qu'on peut encore hisser de lourdes charges au sommet d'un bâtiment.
Les peuples antiques osaient construire haut. Il y a encore un siècle, la Grande Pyramide restait le bâtiment le plus élevé du monde. Ce n'est qu'avec l'ingénierie moderne que nous avons pu aller encore plus haut et concevoir ainsi nos plus beaux gratte-ciel et même des structures entièrement en verre.
De ces merveilles, il n'en reste plus qu'une seule de visible.
On devrait dire il n'en reste que trois, parce que dans la liste de Philon de Byzance, il ne s'agit pas de la pyramide de Khéops, c'est beaucoup plus intelligent d'ailleurs comme choix, ce sont les pyramides.
Jean-Pierre Adam, archéologue, architecte, professeur à l'EPFL.
Donc c'est pas un seul édifice. Il y avait une admiration pour cet ensemble monumental formidable que sont les tombes royales de l'Ancien Empire. Et si l'on songe que la pyramide de Khéphren n'a que 3 mètres de moins que la pyramide de Khéops, on voit pas pourquoi il y a une fascination absolument hallucinante sur la pyramide de Khéops. Tous les mystères, toutes les chambres secrètes, toutes ces inepties, ces infantilismes sur le secret dévoilé, le mystère dévoilé, qui se focalise uniquement sur Khéops, n'a aucune raison d'être. Alors que les autres sont tout aussi admirables. Les pyramides de Dachour sont des pures merveilles, peut-être même plus intéressantes que la pyramide de Khéops.
Mais ces merveilles de l'Antiquité, même celles qui ne sont plus visibles, elles font toujours rêver.
Ah ben heureusement, Alors, il ne faut pas tenir ce langage naïf qui consiste à dire « même avec nos machines, on ne pourrait pas construire les remparts de Babylone ou la pyramide de Khéops ». Ce n'est pas vrai, bien évidemment. Par contre, lorsqu'on réfléchit un petit peu et que précisément, en reprenant cette formule, lorsqu'on n'a pas nos machines et que eux ne les avaient pas, à l'effort gigantesque, l'effort d'imagination déjà pour concevoir un édifice tel que la Grande Pyramide, et puis pour le bâtir, il n'y avait que les muscles, un nombre considérable d'ouvriers relativement bon marché, bien entendu, une imagination extraordinaire pour vaincre tous les obstacles, notamment les forces de frottement, lever un objet, le transporter, lui faire traverser le Nil, par exemple. C'est là que réside l'exploit. C'est avec des moyens dérisoires, mais avec une intelligence entièrement consacrée à cet effort, on a abouti à des merveilles.
Et c'est ça qui nous fascine, c'est de se dire, ben voilà, c'était quand même des sacrés bâtisseurs.
Ah, c'est absolument formidable. Et puis, ce sont des constructions, sauf le phare d'Alexandrie, que l'on pourrait considérer comme inutiles, parce qu'elles servent, ces merveilles, elles servent des vanités. C'est tout le problème du concept de l'art pour l'art chez les Grecs. Ils abolissent brusquement ce qui était autrefois au service de quelque chose. Et c'est vrai pour les merveilles, elles sont, comme l'était l'art avant les Grecs, au service d'un dieu, d'un roi ou d'un personnage défunt, donc d'une entité pratiquement insaisissable. Alors que le phare d'Alexandrie surgit brusquement et lui, c'est ce que nous appelons un ouvrage d'art, qui est au service d'une collectivité. Il est utile à toute une collectivité, celle des marins, des navigateurs. Donc il y a une différence considérable qui fait peut-être que justement le phare ne figure pas dans les listes initiales des merveilles du monde. Ça nous choque, mais c'est ainsi.
Mais ces listes consacrées aux merveilles du monde, elles inspirent aujourd'hui encore, puisque dernièrement, on a voté pour les 7 merveilles du monde moderne. On nous demande aussi notre avis sur les 7 nouvelles merveilles du monde. Donc finalement, l'homme a besoin de classer.
On vit l'époque des concours et des records. C'est vrai dans le sport, c'est vrai dans les réalisations. Vous voyez, qui construira aujourd'hui la tour la plus élevée, vous voyez, du côté des Émirats, par exemple. Ça n'a pas une très grande valeur compte tenu du niveau de technologie contemporain. Mais il est certain que cette idée des 7 merveilles a fonctionné effectivement comme stimulant, donc c'était toujours le rôle initial. Au moins, lorsque l'architecture arrive dans cette acquisition des matériaux modernes, nouveaux, 19e siècle, où l'idée des 7 merveilles, ou de la création de la 8e merveille, se fait corps, la tour Eiffel, la galerie des machines, ce sont des merveilles. C'est dans l'esprit des merveilles du monde, évidemment, qu'on les a réalisées. C'est absolument certain que ce concept garde toute sa valeur et toute sa force de conviction.
Avec vous, Jean-Pierre Adam, nous allons évoquer quelques-unes de ces merveilles de l'Antiquité. C'est donc quelques minutes dans Monumental.
Nous plions tous sous le vent, si fragile, scintillant. Serions-nous juste une étoile, un filament, qui brille puis casse sous le temps? Serions-nous tous simplement faits d'argile, de suppléments? Serions-nous juste à l'orée, sur le flanc, des falaises au bord des océans?
Toute petite la vie, toute petite.
Au bord des océans, Gaëtan Roussel.
Toute petite la vie, toute petite.
Navigateur débutant, à bout de souffle si souvent, serions-nous juste une bulle, un diamant qui scintille au fond des océans? Serions-nous lignes élégants, courbant l'échine impatient? Serions-nous tous tout petits rayonnants, à l'horizon comme juste là devant? Serions-nous tous simplement
monumental? Confrontés à des obstacles quasi insurmontables, des architectes visionnaires ont entrepris de conquérir l'inconnu avec un succès extraordinaire. Il y a eu les jardins suspendus de Babylone, déployant leurs couleurs dans le ciel comme une oasis au milieu du désert.
Je suis très intrigué par les jardins suspendus de Babylone. J'aimerais qu'ils soient encore là.
Des sept merveilles, c'est celle dont je regrette le plus la destruction. C'est si inhabituel, ça attise l'imagination.
Cet espace exotique et mystérieux au milieu d'une plaine aride nous a toujours fascinés. Comment les Babyloniens l'ont-ils créé ? Les jardiniers de l'Antiquité avaient une connaissance approfondie de l'horticulture. Mais quelles espèces pouvaient-ils cultiver dans les jardins suspendus ?
La liste des sept merveilles du monde affiche à la première place la pyramide de Khéops, on en a parlé tout à l'heure avec vous, Jean-Pierre Adam. Ensuite, on trouve les jardins suspendus de Babylone. Ça, c'est une merveille qui est plutôt mystérieuse.
Elle est mystérieuse parce que les descriptions sont pourtant assez techniques chez les différents auteurs, comme Diodore, par exemple. Et on sait très bien que dans une région semi-désertique, au climat extrêmement rude, il est évident que le moindre espace vert fascine. C'est vrai si vous parcourez en trekking la Tunisie du Sud et que brusquement vous arrivez dans une oasis, vous trouvez que c'est le paradis. Donc c'est cette notion, d'ailleurs le mot même de paradisos vient de là, c'est un mot grec venu du persan, qui montre que dans ces régions de steppe ou de désert, on a très vite focalisé tous les efforts vers l'irrigation et l'entretien d'un espace vert. Un espace vert nécessaire pour la vie, pour produire évidemment des produits agricoles, des légumes et des fruits, et puis aussi pour l'agrément qu'offre la verdure, les plantes, les fleurs, les arbres, l'ombre, le bruit du vent dans les branches, dans les feuilles.
Jean-Pierre Adam, archéologue, architecte, professeur à l'EPFL.
Il était normal que les souverains babyloniens et porter tous leurs efforts justement devant ce privilège qu'ils recherchaient, qu'était la création d'un jardin artificiel, arrosé en permanence, de façon à ce qu'il n'y ait plus de saison. L'abolition de la saison est quelque chose de très fort, c'est vrai aussi d'ailleurs chez les Romains dans le décor du péristyle de la maison romaine. Et les techniques qui permettaient d'irriguer ont été poussées très très loin, avec des machines élévatrices, des norias par exemple, qui conduisaient l'eau sur des terrasses sur lesquelles on avait étalé de la terre, si bien qu'à différents niveaux, et c'était encore plus extraordinaire lorsqu'on était au-dessus du sol, on avait recomposé la planète Terre. Il y avait une espèce de volonté de démiurge, le souverain était tout puissant, il était capable de recréer la vie et la végétation dans un espace qu'il avait conçu lui-même, ou que son architecte, ses bâtisseurs avaient conçu. Donc c'était extrêmement fort à tout point de vue, en plus de l'agrément évidemment qu'apportaient ces jardins sur des terrasses. On a quand même, on n'est pas totalement démunis, on a un certain nombre de représentations, notamment de bas-reliefs, qui nous montrent ces palais, aussi bien babyloniens que assyriens, qui possèdent effectivement, sur des terrasses, des jardins où la végétation est extrêmement abondante. Donc c'est une réalité. C'était un rêve pour ceux qui n'y avaient pas accès, ils le voyaient de loin, c'était une réalité pour les souverains.
Donc ils ont existé.
Donc ils ont vraiment existé, c'est absolument hors de doute.
On remet souvent en question l'existence des jardins de Babylone.
On remet en question le fait que Babylone n'a livré qu'un pitoyable squelette de murs de briques crues avec quelques éléments de briques cuites pour les parements des remparts. Et on en vient à douter en voyant cet aspect misérabilissime qui n'a jamais pu avoir une merveille comme les jardins suspendus dans ce décor désertique et désolé. Mais la réalité est tout autre. Il faut se placer un certain nombre de millénaires en arrière. Et les temps ont changé. C'est ainsi que l'histoire gomme l'histoire et se renouvelle ou non.
Au Moyen-Orient, l'horticulture était une profession respectée. On cultivait les plantes à des fins médicinales et pour fabriquer des parfums. Peut-être à cause de l'importance des odeurs, les jardins étaient souvent entretenus par des femmes et des aveugles. Il semble que le jardinier de Nabucodonosor ait été un expert judéen. Les récits montrent qu'il recevait des rations spéciales du palais. Mais les Babyloniens avaient une connaissance approfondie de la flore. Ils ont certainement choisi les plantes les mieux adaptées à ce climat chaud et aride. Celles-ci développent différentes stratégies pour survivre à des environnements extrêmes. Certaines réduisent leurs feuilles à de simples épines, comme les graminées et les conifères, ce qui leur garantit une perte d'eau minimum. D'autres ont des feuilles tannées ou huileuses qui conservent mieux l'eau. Elles tendent souvent vers le gris, une couleur qui réfléchit l'éclat du soleil. Dans certaines variétés, les feuilles sont couvertes de poils fins qui diminuent l'effet asséchant du vent et retiennent l'air froid de la nuit pour maintenir la plante au frais dans la journée. Malgré leur courte durée de vie, les jardins sont devenus légendaires. C'est la seule des sept merveilles du monde à déployer la beauté de la nature. Et il n'existe pas de jardin plus célèbre dans l'histoire.
La première, monumentale.
Après les jardins de Babylone, il y a la statue de Zeus. Cette statue de Zeus, c'est la plus grande statue qu'aient réalisée les Grecs.
C'est une des très grandes statues. L'auteur Phidias, le sculpteur grec le plus connu, bien sûr, était déjà auteur d'une très grande statue de Athéna dans le Parthénon, construite de la même manière. Lorsqu'on dit statue chryséléphantine or et ivoire, entendons, il ne s'agit pas d'un énorme bloc d'or représentant les vêtements et de blocs d'ivoire représentant la chair, mais c'est une statue de bois, autrement dit une âme de bois, sur laquelle Phidias, ou d'autres sculpteurs d'ailleurs, il n'est pas le seul, a posé des plaques d'ivoire pour les chairs et des feuilles d'or extrêmement minces pour la partie vestimentaire. C'est une statue qui mesurait 13 mètres de hauteur. On a une description de Pausanias d'une extrême précision. On peut, en lisant ce texte de Pausanias, qui était un grec qui vivait à l'époque romaine, mais qui nous décrit Olympie d'une manière très précise, et en le lisant, et on peut suivre son texte avec le crayon et dessiner la statue dans ses moindres détails. Est-ce que c'était la plus grande ? Non, parce que le colosse de Rhodes était infiniment plus grand. C'était vraiment un colosse. Néanmoins, c'était probablement la plus grande statue jamais introduite dans un sanctuaire, dans un temple. Celle d'Athéna était une statue debout, qui frôlait le plafond du temple. Et celle de Jupiter, qui était assis, mesurait 13 mètres, mais on peut dire que s'il se mettait debout, il était beaucoup plus grand qu'Athéna. C'était déjà quelque chose d'absolument colossal. Il faut surtout l'imaginer au fond du naos du temple, dont l'éclairage était extrêmement discret. C'était uniquement la porte d'entrée, qui elle-même était au fond d'un portique. Donc il y avait une véritable pénombre, et les pieux pèlerins qui pénétraient à l'intérieur du temple voyaient surgir cette statue absolument gigantesque dans une demi-obscurité, et ça le rendait évidemment encore plus impressionnant que s'il avait été en plein air, naturellement. Alors que le colosse de Rhodes, lui, était à l'extérieur, compte tenu de son gigantisme. Mais ça demeure néanmoins probablement l'une des plus belles statues de l'histoire de la statuaire antique.
La statue de Zeus, en honneur duquel on tenait les Jeux Olympiques.
En effet, le sanctuaire, initialement le sanctuaire d'Olympie, était un sanctuaire dédié à Zeus et à Héra, son épouse. C'est un lieu emblématiquement extrêmement fort, puisque le calendrier grec commence en 776 avant Jésus-Christ, qui est la date des premières Olympiades. Après quoi, les Olympiades duraient 4 ans, donc tous les 4 ans, on célébrait de nouveaux Jeux dits panhelléniques, présidés ou en l'honneur de Zeus, bien entendu, si bien qu'on a une précision calendaire remarquable grâce à cette date de départ de 776 avant Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre civilisation qui nous ait fourni ainsi un indice de calendrier aussi précis que le monde grec. Et bien entendu, ces Jeux Olympiques commençaient par la célébration d'un sacrifice à Zeus, sacrifice qui n'était pas célébré dans le temple. Le temple, c'était simplement l'abri de la statue. On y pénétrait, bien entendu, tout le monde y pénétrait, naturellement. Mais la cérémonie, qui regroupait des milliers de personnes, elle se déroulait en plein air, autour de l'autel sur lequel on sacrifiait des animaux en l'honneur de Zeus.
Mais cette statue gigantesque, comment est-ce qu'elle a disparu ? De quelle manière ?
Chose extraordinaire, lorsque Théodose a interdit définitivement les cultes dits païens, il était admiratif de cette statue, donc il a refusé qu'elle soit détruite. Et c'est son fils, en réalité, Théodose II, qui l'a fait transporter à Constantinople, où elle a été exposée, on venait l'admirer. Et malheureusement, au milieu du 5e siècle, un incendie a détruit le palais dans lequel elle était exposée. Et cette statue, qui, comme je vous l'ai dit, était une statue de bois, revêtue de feuilles d'or et de plaques d'ivoire, a été totalement détruite, hélas, au cours de cet incendie.
Mais cette œuvre, elle a inspiré les artistes par la suite.
Ça a inspiré effectivement beaucoup d'artistes, et notamment de sculpteurs. Et probablement la dernière grande sculpture en date directement inspirée par le Zeus, c'est la statue d'Abraham Lincoln à Washington, qui a à peu près les dimensions, la stature, l'aspect impressionnant de la statue de Zeus à Olympie.
La quatrième merveille du monde, c'est le temple d'Artémis à Éphèse, c'est la Turquie actuelle. Jean-Pierre Adam, en quelques mots, à quoi ça ressemblait ?
C'était un temple hors norme, de dimensions gigantesques. Il y en avait quelques-uns dans le monde grec. Celui-ci était le plus fastueux, indiscutablement. D'ailleurs, Philon de Byzance dit que c'était la plus somptueuse de toutes les merveilles. Il mesurait quelques 110 mètres de longueur sur un peu plus de 65-70 mètres de large. Il était tellement grand que les architectes grecs ne pouvaient pas le couvrir. Autrement dit, il y avait un porche qui, effectivement, avec une multitude de colonnes, possédait une toiture. Mais à la place du naos, la salle qui devait contenir la statue d'Artémis, la Diane des Romains, c'était une gigantesque cour à ciel ouvert. C'est ce qu'on appelle le temple Hypètre, ou Petros chez les Grecs. Et la statue, en réalité, était tout au fond de cette cour, qui servait d'espace sacré d'approche de la statue, qui était au fond de la cour, sous un petit baldaquin qu'on appelait l'aditone, qui était une espèce de miniaturisation du temple lui-même, qui abritait effectivement la statue qui n'était pas en plein air. Donc c'était un édifice absolument hors norme. Il était d'autant plus étonnant que cette déesse, dans son aspect initial grec, c'était une déesse de la fécondité, une déesse de la nature. C'est ce qui reste un petit peu dans la Diane chasseresse, qui est accompagnée de chiens, qui se livre à la chasse aux cerfs. Elle parcourt les montagnes à la recherche d'animaux sauvages. Là, au contraire, elle les protégeait. Et autour du temple d'Artémis à Éphèse, il y avait le premier jardin zoologique connu. Il y avait un grand parc dans lequel on élevait des animaux sauvages qui étaient dédiés à la déesse qui les protégeait.
Et ce temple gigantesque, il n'en reste plus rien.
Il n'en reste plus rien. D'abord, il y a eu deux temples qui se sont succédés. Le premier, dit archaïque, un temple construit au VIe siècle, avait déjà ses dimensions gigantesques. Le programme est presque le même dans le premier et le second. Il a été incendié par un malheureux qui était très ambitieux, mais incapable de faire quoi que ce soit. Tout juste s'il savait faire cuire un œuf à la coque. Faute de pouvoir bâtir ou réaliser, il a dit « je vais détruire quelque chose ». Il a eu l'idée de s'en prendre à ce temple merveilleux. Il a dit « je vais le détruire et je passerai à la postérité ». Il s'appelait Hérostrate. Il a accumulé du combustible à l'intérieur du naos, il a mis le feu aux tentures, aux draperies, l'incendie a gagné la charpente du narthex du temple, et finalement le temple, le marbre a éclaté, le temple a été presque complètement détruit. Il a été condamné à mort, et on a maudit son nom, on a dit que son nom ne devrait plus jamais être prononcé. Mais en réalité, sa célébrité était telle qu'il a gagné son pari, et on connaît aujourd'hui son nom. Alors le temple a été reconstruit lorsqu'Alexandre est passé par Éphèse, lui-même a assisté au début du chantier. Et c'est ce second temple, évidemment, qui fait partie de la liste des merveilles du monde, puisque c'est la liste elle-même est du 3e siècle avant Jésus-Christ. Il était encore plus fastueux que le premier.
Et lui ?
Lui, malheureusement, a fini de sa belle mort. À l'époque de Théodose, il a été abandonné, fermé, et puis des récupérateurs de matériaux l'ont dépecé petit à petit. Il est parti en lambeaux, parti au four à chaud, parti dans d'autres constructions. C'est ainsi qu'il est mort pitoyablement.
L'art et l'architecture grecque ont exercé leur influence jusqu'à la Perse, ennemie de la Grèce. À l'extrémité occidentale de l'Empire perse se trouvait autrefois la grande cité d'Halicarnasse. Aujourd'hui rebaptisée Bodrum, c'est devenu une petite ville touristique de l'actuelle Turquie. Au premier abord, on imagine mal qu'elle ait pu abriter l'une des sept merveilles du monde. Mais au 4e siècle avant Jésus-Christ, c'était la capitale d'un puissant empire maritime. Face au port, on peut encore voir les vestiges d'un tombeau, le plus grand jamais construit. Ce bâtiment, d'une hauteur de 43 mètres, mêlant des styles variés, était couvert d'innombrables statues. C'est lui qui a donné le mot mausolée, qui sert désormais à désigner une sépulture monumentale. Son architecture a été copiée dans le monde entier, depuis la loge maçonnique de Washington jusqu'au mémorial du souvenir de Melbourne en Australie.
L'idée de la tombe royale monumentale, elle est très ancienne. Elle remonte à la préhistoire, au néolithique, bien sûr. Le roi Mosol était un roi extrêmement fortuné, qui a tenu tête à l'Empire perse, d'ailleurs. Il s'est fait bâtir ce mausolée dont le modèle, le programme existait déjà. C'est le simulacre d'un sanctuaire placé sur un podium très élevé. Donc le sanctuaire, c'est lui qui en est le personnage quasi divinisé. Donc l'idée, c'est de monter un podium et assez élevé pour que le monument devienne un signal visible de très loin. C'est l'idée de la pyramide, bien entendu.
Mais d'ailleurs, il y avait une pyramide au sommet.
Il était coiffé lui-même par une pyramide de pierre, c'est vrai qu'il servait de couverture et de toiture à cet édifice. Et pour ce mausolée, on a fait appel aux meilleurs sculpteurs, 5 artistes se sont succédés, ont travaillé même ensemble à la réalisation et décoration de ce mausolée absolument extraordinaire, et qui est devenu très célèbre puisqu'il a donné son nom par la suite à tous les grands tombeaux.
On les appelait mausolées.
Ça un mausolée, oui. Alors que le mot n'existait pas avant lui, bien entendu. On parlait de tombeau, bien entendu. Il a fini, lui aussi, assez misérablement. Il a survécu très longtemps, jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à l'arrivée des Turcs. Et les Turcs ont commencé à le dépecer pour construire une forteresse dans la ville d'Halicarnasse, qui a pris le nom par la suite de Bodrum. Et puis les Turcs étant partis, ce sont des chevaliers de Saint-Jean qui sont installés sur place, qui ont agrandi ce château, qui ont continué à dépecer le mausolée, qui était alors évidemment déjà une ruine réduite à peu de choses, qui est un énorme tas de cailloux. Et eux-mêmes d'ailleurs donnent une description assez fidèle du moment, enfin au moment où ils le dépecent, il restait encore une silhouette qu'il était possible d'interpréter. Et les pierres du mausolée sont parties dans la construction du fort de Saint-Pierre. Le fort de Saint-Pierre s'appelait au début le Petreum, mais ça a donné Bodrum dans le vocable grec turc pardon contemporain. Si bien qu'on peut retrouver, si on démontait complètement le château Saint-Pierre, on retrouverait l'essentiel des pierres du mausolée à l'intérieur du château. Il n'y en est pas question parce que la charte de Venise nous interdit de détruire un édifice qui est dans l'histoire et de respecter l'histoire et toutes les phases de l'histoire. Néanmoins, on a retrouvé l'emplacement. Au lieu d'un mausolée, maintenant, on a une grande fosse très profonde qui donne les dimensions exactes. Et comme les Anglais, les premiers à avoir fouillé le site, ont eu le bon goût d'emporter au British Museum les plus belles sculptures qui n'avaient pas été réutilisées dans la construction du fort Saint-Pierre, on a au British Museum la représentation du roi Mosol et de son épouse Artemis, qui sont des sculptures somptueuses qui dominaient le mausolée, qui étaient placées au sommet de cette fameuse pyramide qui servait de toiture au mausolée.
Il nous reste à parler du colosse de Rhodes ainsi que du phare d'Alexandrie, et ce sera chose faite d'ici 3 minutes dans Monumental.
Andrew Bird.
There'll be 3 white horses all in a line. There'll be 3 white horses in a line. 3 white horses. When you go that way, you will need somebody when you come to die. Don't dismiss it like it's easy. Now tell me what's so easy about coming to say goodbye. Yeah.
Sur la première, une information routière.
Infotrafic RTS.
En Valais, la route du col du Simplon est fermée en raison d'un véhicule en feu dans le tunnel d'Yenguelor. Et sur le contournement de Genève, la circulation est ralentie entre Mérin et le tunnel de Verny en direction de la France en raison d'un accident.
C'est le sculpteur Charès de Lindos qui fut choisi pour réaliser le colosse. Monumental. On raconte qu'à l'origine, sa statue devait mesurer 16 mètres. Mais les Iliens exigèrent qu'elle fasse le double, soit 32 mètres de haut. Charès doubla donc les dimensions et se mit à l'œuvre.
Jean-Pierre Adam, parlons à présent du Colosse de Rhodes, sixième merveille du monde antique. C'est une gigantesque statue, elle est toute en bronze.
Pas exactement, c'est un peu le même problème que la statue de Zeus à Olympie. Ce sont des tôles métalliques fixées sur une armature.
Jean-Pierre Adam, archéologue, architecte, professeur à l'EPFL.
Et là, Philon de Byzance, l'auteur de ce fameux Periton Heptateamaton, qui est un beau parleur, c'est ce qu'on appelait un rhéteur. Il a écrit cet ouvrage peu après 400 environ, d'époque tardive, en grec. D'ailleurs, dans les Sept Merveilles du Monde, j'ai travaillé avec Nicole Blanc qui, pour la première fois, a retrouvé le manuscrit grec, qui vient du mont Athos, qui a été acheté par les bibliothèques de Heidelberg à la fin du Moyen-Âge, où il est toujours actuellement. Donc elle a donné la première traduction complète de ce texte en langue française. Et là, Philon de Byzance, qui fait des belles phrases sur les autres merveilles, a compilé, lui-même n'était pas un voyageur, c'était un compilateur. Donc il est tombé sur un texte technique qui décrivait très précisément ce colosse. Et c'est lui qui nous donne la description de l'armature du colosse. Il nous précise que d'abord, il avait environ 35 mètres de hauteur, 70 coudées, que le corps, l'âme plutôt, comme on disait pour la statue de Zeus, était une colonne ou une tour de pierre, qui était traversée par des barres de fer qui servaient littéralement de squelette. Et c'est à l'extrémité de ces barres de fer que les plaques de bronze étaient fixées. Donc il y avait une armature extrêmement solide. Et chose extraordinaire, lorsque on va construire à Paris, puis ensuite la transporter dans le port de New York, la Statue de la Liberté, c'est l'ingénieur Eiffel qui va faire les calculs et chercher comment faire tenir cette gigantesque statue qui a 45 mètres de hauteur, qui est donc un peu plus haute que le Colosse de Rhodes. Il va étudier, lui, il va être le premier à reprendre ce texte de Philon, manifestement, pour redonner un squelette rigide et solide à la statue de la Liberté. Donc c'est intéressant comme reproduction à la fin du 19e siècle de la statue du Colosse de Rhodes. Donc ce colosse se dressait. Alors, il y a deux emplacements, on n'est pas absolument certain. Il se dressait peut-être à l'entrée du port, puisque les auteurs confirment bien qu'il servait d'amer, c'est-à-dire de repère visible, c'était pas un phare, c'est le repère diurne pour les navigateurs, de façon à trouver l'entrée d'un port. Donc, on visait sur cette amer, et lorsqu'on était à proximité, évidemment, on voyait où était l'entrée de ce port. D'aucuns ont estimé que peut-être il tenait un foyer dans son bras levé, mais ça ne semble pas du tout être le cas. Alors, il pourrait, évidemment, toute logique, être placé à l'extrémité d'une jetée du port. Pour d'autres auteurs, cette fonction d'amer est également possible si la statue est construite au sommet de la ville de Rhodes, qui est adossée à une colline, à côté ou devant le temple d'Apollon, puisqu'il y avait un temple d'Apollon et que cette statue du colosse, c'est le dieu Apollon qui éclaire le monde. Alors, on n'a rien retrouvé ni de l'un ni de l'autre, sauf que on a tout de même découvert, à l'emplacement de la tour qui portait le nom de Saint-Nicolas, un morceau de marbre qui correspond à une base de marbre de 17 mètres de diamètre qui était la base du colosse de Rhodes et qui a été réutilisé dans la construction de cette tour. Donc, il y a une présomption pour que le colosse, effectivement, ait pu être construit à l'entrée du port. Ça pose des problèmes techniques difficiles, puisque on sait que les plaques métalliques étaient coulées au fur et à mesure. Elles n'étaient pas faites à l'avance, on ne les soudait pas. Donc, on montait un gigantesque échafaudage qui renfermait également un coffrage, un caisson, une sorte de caisson rempli de terre, dans lequel on coulait les tôles de bronze les unes après les autres. D'ailleurs, Philon parle de tôles de cuivre et non pas de tôles de bronze, mais comme on n'a rien retrouvé, évidemment, on ne peut pas aller plus loin dans la précision. C'était néanmoins, sur le plan technique, un ouvrage absolument prodigieux. Prodigieux parce qu'il fallait qu'il résiste à la pression du vent, par exemple. Malheureusement, moins de 70 ans plus tard, un tremblement de terre extrêmement violent détruit la ville de Rhodes et le colosse s'est abattu. Et pendant un certain nombre d'années, les voyageurs ont pu voir, alors là encore, ils ne disent pas où on pouvait voir ces vestiges, on pouvait voir le podium sur lequel s'élevaient encore les pieds du colosse. Et ils nous précisent bien qu'effectivement, il y avait des pierres qui servaient d'armature traversées par des barres de fer. Donc ce n'est plus qu'un très beau souvenir, mais on a un autre colosse qui a été fait strictement à son image, construit par l'empereur Néron. Qu'il a construit à Rome, devant sa luxueuse villa, la Domus Aurea, et qui avait à peu près les mêmes dimensions, la même morphologie. À l'époque, on avait dû voir, évidemment, le colosse peut-être encore en état. Il y avait des dessins, des reliefs, on ne sait trop. Colosse qui lui-même aussi a disparu, mais qui a donné son nom à l'amphithéâtre qui est à côté, le Colosseo. C'est le nom qui est... puisqu'on a construit le Colisée à côté du colosse, et il a donné son nom à cet amphithéâtre gigantesque. Ce qui... on venait parfaitement d'ailleurs, bien entendu.
On a souvent vu au sujet du colosse de Rhodes une espèce, bon, des dessins, hein, une espèce de statue qui enjambe comme ça le port de Rhodes et les bateaux passaient entre les jambes. Ça, c'est pas possible.
C'est une très belle image qui est née à la Renaissance lorsque les érudits ont vu ressurgir les textes sur les merveilles du monde, dont celui de Philon. Eh bien, on a cherché évidemment à restituer toutes les merveilles, pas seulement le colosse, mais donc on a des images qui sont des fictions, sauf pour les pyramides, évidemment, ce n'était pas trop difficile de dessiner une pyramide, mais pour les autres, ce sont toujours des fictions. Et effectivement, le premier à avoir restitué, Jean Cousin, à avoir restitué le colosse, l'a montré comme une statue qui enjambait l'entrée du port avec le pied sur l'extrémité de deux jetées, bien entendu. C'est une fiction parce qu'on ne peut pas imaginer une statue de 35 mètres de hauteur, les jambes écartées, elle se serait évidemment effondrée. Il faut donc imaginer, comme l'a conçu l'ingénieur Eiffel à partir du dessin de Bartholdi, une statue au contraire extrêmement resserrée, massive, pour avoir le maximum de stabilité.
Et il a beaucoup inspiré les artistes.
Sergio Leone a fait un très beau film dans lequel il a reconstitué en décor, évidemment, le colosse de Rhodes.
Jules Verne en parle.
Et également, de très nombreux auteurs s'emparent de cette image qui est évidemment fascinante.
Les jeux vidéo.
Les jeux vidéo. Oui. Ah, je vais rechercher ça. Je connaissais Mario. Et voilà quelque chose, une nouvelle piste.
La dernière des sept merveilles s'élevait dans la cité qui donna naissance à toutes les autres, Alexandrie. C'est dans la première métropole de l'histoire que fut bâti le tout premier gratte-ciel. Un phare dominant la ville à plus de 120 mètres de haut. On retrouve des phares dans la Méditerranée dès le 7e siècle avant Jésus-Christ. Mais celui d'Alexandrie était plus qu'une simple valise. Il avait une autre fonction.
Cette tour symbolisait le pouvoir, l'autorité et le prestige de la dynastie des Ptolémées qui régnait alors sur l'Égypte.
Jean-Pierre Adam, est-ce qu'on peut dire que le phare d'Alexandrie, c'était une espèce de premier gratte-ciel au monde ?
Indiscutablement. Absolument, indiscutablement. C'est un projet formidable. Ce n'est pas Alexandre qui l'a conçu. Alexandre a jeté les dés. Lui, il a dit, voilà, il faut construire une ville portuaire à cet endroit. Mais comme la région est extrêmement plate, il n'y a pas de repères. Donc les navigateurs, à partir du moment où les Grecs avaient construit le port d'Alexandrie, avaient beaucoup de mal à trouver l'entrée du port, surtout lorsqu'ils arrivaient au moment de la nuit. Donc ils étaient obligés d'attendre le lever du jour, puis de longer la côte jusqu'à ce qu'ils trouvent l'entrée du port. Il n'y avait pas de signal. Alors on avait probablement commencé par construire une très grande statue de Poséidon, qui servait d'amer, un peu comme le colosse de Rhodes, bien entendu. C'était un repère diurne, donc on visait la statue, on trouvait l'entrée du port. Et puis, Ptolémée Sotère, enfin l'un des souverains, les premiers souverains hellénistiques, est-ce lui, évidemment on ne le sait pas, a eu l'idée de fournir au port d'Alexandrie un repère gigantesque, à la fois diurne et nocturne. L'idée du fanal, du feu qu'on allumait à l'entrée du port, elle est assez ancienne, c'est pas la première fois qu'on le fait. Mais avec les dimensions du phare d'Alexandrie, c'est vraiment une création tout à fait première et prodigieuse. Et il confie à un architecte le soin de bâtir cette tour colossale, dont les dimensions nous sont données par des visiteurs d'époque arabe tardif, entre le XIe et le XVe siècle. On a plusieurs textes qui oscillent entre 102 mètres et 105 mètres. Mais il faut bien dire qu'à cette époque, la partie au sommet, qui était une sorte d'édicule, on pourrait appeler ça un baldaquin à colonne, à claire-voie, qui abritait le foyer, avait disparu. Et à la place, nous dit un manuscrit du XIIe siècle, on avait construit une petite mosquée circulaire. Donc on peut penser qu'entre les 102 et 105 mètres donnés par les voyageurs arabes, on peut ajouter entre 10 et 20 mètres, c'est évidemment complètement flou comme estimation, pour restituer ce petit baldaquin qui abritait le foyer. Donc la tour devait mesurer entre 110 et 120 mètres de hauteur, ce qui est quelque chose d'absolument extraordinaire, évidemment.
Il était visible à des dizaines de kilomètres, alors là aussi les sources sont différentes, les chiffres varient, on parle de 40, 50, voire 80 kilomètres.
Le seul en fait qui donne des mesures précises, c'est l'historien et chroniqueur Joseph, qui parle de la description de Jérusalem, entre autres choses, et qui nous dit que le phare d'Alexandrie était visible à un peu plus de 50 kilomètres, exactement, si on veut, c'est 58 kilomètres, quelque chose comme ça. C'est possible, compte tenu de son extraordinaire hauteur, il y a bien peu de phares contemporains qui atteignent une hauteur de 100 mètres, bien entendu. C'était un record, ça demeure un record aujourd'hui. Donc il est vraisemblable que par temps clair, or le monde méditerranéen n'est pas précisément brumeux, nuageux, à une cinquantaine de kilomètres. Au-delà, il y a la courbure de la Terre qui fait obstacle. Mais à une cinquantaine de kilomètres, on devait voir déjà le foyer du phare pendant la nuit.
Et l'origine du mot phare vient de ce phare,
oui,
justement.
Voilà, c'est comme le roi Mausole qui a banalisé le nom de son tombeau qui est devenu le mausolée. Ça vient du nom de l'îlot qui s'appelait Pharos, sur lequel on a construit cette tour. Et les Romains, déjà, avaient adopté ce nom très rapidement lorsqu'ils ont construit leur propre phare.
Et ce phare a été endommagé, le phare d'Alexandrie a été endommagé par différents tremblements de terre.
L'Égypte, malheureusement, est également soumise à des séismes moins violents, c'est vrai, que le monde égéen ou que l'Italie. Néanmoins, on peut compter qu'il y a environ 2 séismes par siècle, si vous voulez, dans la vallée du Nil. Et le phare d'Alexandrie, en raison de sa sveltesse, de sa grande hauteur, sur un terrain marin qui n'est peut-être pas très stable, a subi plusieurs destructions de tremblements de terre. Et au XVe siècle, le gouverneur arabe du Caire, qui s'appelait Kait Bey, utilise les ruines du phare, et le soubassement du phare lui-même d'ailleurs, pour construire son fort, qui s'appelle le fort de Kait Bey, dont les dimensions à la base sont exactement les dimensions à la base du phare d'Alexandrie. Donc il n'en reste plus que l'emplacement, le lieu et les pierres réutilisées dans le fort de Kait Bey. Jean-Yves Empereur a entrepris un grand nombre de fouilles sous-marines dans le port. D'abord parce qu'il y a eu des affaissements côtiers provoqués par des mouvements sismiques. Donc une partie des quartiers maritimes d'Alexandrie est aujourd'hui immergée. Et également parce que ces tremblements de terre ont projeté dans l'eau les vestiges d'un certain nombre d'édifices portuaires, dont vraisemblablement des pierres provenant du phare. Or, d'autre part, les ruines du phare et d'autres monuments ont été exploités à différentes époques dans des tentatives de construction de digues pour protéger le port. Et l'essentiel des pierres antiques retrouvées par Jean-Yves Empereur proviennent d'un projet ou d'une digue aujourd'hui détruite qui avait été enrochée par des blocs, entre autres, et des sculptures, notamment provenant du phare. Donc ça a été une fouille extrêmement prospère et tout à fait spectaculaire.
Les joyaux de l'architecture moderne sont sous haute surveillance scientifique et technologique. Les sept merveilles sont devenues emblématiques de l'Antiquité. Elles ont existé par la force de la science, mais aussi par la volonté d'hommes déterminés à bâtir l'impossible.
Les sept merveilles du monde représentent un âge d'optimisme, le désir de pousser la technologie à l'extrême pour aller encore plus loin et créer des structures monumentales.
Jean-Pierre Adam, toutes ces merveilles, quelle est celle qui vous fait rêver, que vous trouvez admirable ?
Ah ben c'est le phare, précisément, on vient de terminer par le phare, c'est ce qu'on a dit en préambule. Le phare se détache des autres merveilles, ce n'est pas un monument de vanité. S'il sert quelque chose, c'est la collectivité. Il sert le port d'Alexandrie, donc le trafic maritime, donc le commerce. Il sert les navigateurs. C'est un prodige de modernisme. C'est une conception extrêmement contemporaine de ce que nous appelons les ouvrages d'art. Et en ce sens, et compte tenu de ses dimensions prodigieuses qui visaient uniquement à l'efficacité, bien entendu, et pas seulement à la beauté de l'objet, il est à mes yeux la plus somptueuse, la plus extraordinaire des merveilles.
Ben, on a terminé.
Quel dommage.
Vous voulez encore parler?
Tant pis.
Alors vous savez quoi? Je vais vous faire un petit bon.
Un bon?
Ben, pour revenir une prochaine fois.
Oui.
Vous revenez quand vous voulez,
monsieur. J'ai une image.
Exactement. Vous revenez quand vous voulez.
Demain matin, ça vous va?
Ça me va. Tout de suite sur la première, des nouvelles de la route.
Infotrafic RTS.
Avec Café Kiko Doro et son système à capsule.
Suite à un accident, la bande d'arrêt d'urgence est bloquée sur l'axe Lausanne-Genève entre Morges-Est et Morges-Ouest en direction de Genève. Sur le contournement de Genève, la circulation est ralentie entre Mérin et le tunnel de Verny en direction de la France en raison d'un accident. Plus loin, la circulation est chargée entre l'échangeur de Perly et la douane de Bardonnay. Dans le canton de Vaud, la route principale à la hauteur de la Croix-sur-Lutry est toujours fermée entre le giratoire de la Croix et Savigny dans les deux sens en raison d'un accident. Une déviation a été mise en place. Et on va la route du col du Simplon est fermée en raison d'un véhicule en feu, et cela dans le tunnel du Engelor.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
L'heure, avec la tête de moine AOP et ses visites de fromagerie, tête-de-moine.ch.